France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir ce que notre voix dit de nous, ce que cet outil que nous avons tous en commun dit de notre état, de notre caractère, de notre rapport aux autres, de notre identité aussi, puisque nous avons chacun la nôtre, unique et qu'il est rare qu'on nous confonde à ce niveau-là la voix, irremplaçable pour communiquer et se comprendre, qui nous trahit parfois, nous accompagne toujours et nous joue parfois des tours. Quel meilleur endroit pour en parler qu'ici à la radio où le fait d'entendre sans voir la rend encore plus précieuse et surtout plus magique. La voix qui est aussi un formidable instrument de musique, ce n'est pas le contre-ténor Philippe Jarouski qui est avec nous ce soir, qui dirait le contraire. Rebonsoir Philippe Jarouski.
Bonsoir à tous, rebonsoir à tous.
Avec nous également Dr Elisabeth Fresnel, médecin phoniatre qui a monté en 84 le laboratoire de la voix. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Avec nous également le professeur de technique vocale Pierre Deric qui enseigne au conservatoire du 8e arrondissement de Paris, à Sciences Po Paris et à Eloquentia Saint-Denis, autant dire. Vous intervenez auprès de publics très divers. Bonsoir à vous.
En effet, bonsoir.
On vous a vu l'année dernière dans le film À voix haute. Alors ce soir, plus que jamais, que vous soyez bien dans votre voix ou pas, on attend vos appels au 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, celui de Laurence qui nous appelle de Mont-Saint-Aignan. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Merci. Alors ma question est, je voudrais savoir si on peut déterminer l'âge d'une personne par rapport à sa voix.
Excellente question. Merci Laurence. Je peux vous demander quel âge vous avez ?
54 ans.
54 ans. Docteur Fresnel, est-ce que vous avez bien entendu la question de Laurence ? On va lui demander peut-être de la reposer. Laurence, votre téléphone n'est peut-être pas, la liaison n'est pas terrible. Allez-y.
Je voulais savoir si on peut déterminer l'âge d'une personne en fonction de sa voix.
Alors, on peut déterminer plutôt une tranche d'âge en général, et le sexe aussi. Il y a des jurys d'écoute qui sont naïfs, c'est-à-dire ne sont pas des gens professionnels, qui arrivent très bien à déceler si c'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant. Et la tranche d'âge, c'est à peu près juste en général. Maintenant, ce n'est pas très précis. Il y a des gens qui ont des voix beaucoup plus vieilles, entre guillemets, que leur âge réel. Mais en général, on arrive.
Pierre Deric, je me permets juste de vous demander si vous pouviez mettre peut-être le casque sur le bord de la table. Il y a un petit Larsen. Voilà, on va y arriver. Sur cette question de Laurence sur l'âge, on est parfois surpris quand on entend certaines personnes. On se dit, mais tiens, celui-là, il a une voix qui ne correspond pas à son âge. Comment ça se fait ?
Alors, en effet, ça arrive qu'il y ait des corpulences qui ne correspondent pas au son qu'elles émettent. Voilà, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et en fait, parfois, a priori, peut-être que vous me contredirez, mais c'est par rapport à la taille des résonateurs. C'est-à-dire qu'il y a des grandes cavités à l'intérieur qui font que le son s'amplifie énormément. Alors que, de manière extérieure, le corps semble très menu. Ça peut exister, ça, en effet.
Et sur l'âge, Philippe Jarouski, est-ce que parfois certains, en vous écoutant, sont étonnés ?
Non. Non, je crois que la perception, on le disait tout à l'heure, elle est aussi si on écoute une voix sans voir la personne ou si on la voit. Je crois que quand on écoute seulement une voix, on se fait tout un imaginaire, justement, sur à quoi pourrait ressembler cette personne. Et c'est vrai qu'on peut avoir évidemment des surprises. Moi, évidemment, avec la voix de contre-ténor, quand je chante, en tout cas, évidemment, moi, je sais reconnaître un contre-ténor d'une voix de femme, par exemple. Il y a des gens qui sont très perturbés de voir la différence qu'il peut y avoir entre ma voix parlée, qui est une voix de baryton, on va dire, et ma voix chantée.
Docteur Fresnel, à ce stade, est-ce qu'on pourrait peut-être expliquer comment fonctionne la voix, comment se forme la voix, comment ça marche cette affaire ?
Alors, je vais juste revenir en arrière sur la question d'avant. Il y a une étude qui a été faite en Australie il y a longtemps sur des femmes qui ne fumaient pas, étaient sportives, utilisaient leur voix. Et en sortant de la salle de sport, on leur a demandé justement quel âge elles avaient. Et on leur a donné souvent 10 ans de moins que leur âge, parce qu'elles étaient des femmes sportives et qui s'entraînaient. Alors, comment ça fonctionne la voix ? C'est effectivement extrêmement complexe, mais pour faire simple, on a deux cordes vocales qui sont le chapeau de la trachée et elles sont horizontales parce que beaucoup de gens les imaginent verticales et nombreuses comme un peu une guitare, un orgue, ce que vous voulez.
Ce serait bien.
Pour que ces cordes puissent se mettre en vibration, elles ont besoin d'avoir une pression d'air en dessous. Donc la respiration, c'est le premier stade et c'est le plus important pour garder une bonne voix. Cette pression d'air arrivant sous les cordes vocales, le cerveau ayant donné l'ordre à ces cordes de se rapprocher, elles vont se mettre en vibration. Et là, le son va monter dans ce qu'on appelle les résonateurs dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est entre le point de départ, le larynx, les cordes vocales, et la sortie, le nez et la bouche surtout. Le nez, c'est quand on fait un son nasalisé. Et là, le timbre de la voix va se fabriquer. Et tout ça est contrôlé par l'oreille et le cerveau.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a chacun une identité particulière ? C'est parce que d'abord les cornes ne sont pas les mêmes et parce qu'ensuite ça résonne pas de la même façon, parce qu'on est tous faits différemment, c'est
alors,
ça ?
Alors, il y a une question d'anatomie, évidemment. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des longs coups, des grandes bouches, des grands résonateurs, des petits résonateurs. Et puis, il y a aussi, parce que la voix, c'est pas que ça, c'est encore beaucoup plus. C'est aussi l'état physiologique des gens, leur état psychique. Et puis, le bébé, au départ, il va reproduire ce qu'il va entendre. Donc, il y a toutes les habitudes familiales, les habitudes linguistiques. Et puis, il y a des choses culturelles. En général, en France, on pleure dans l'aigu, alors qu'en Inde, on pleure dans le grave. Il y a l'intonation, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que chaque voix est quasi unique.
Et en plus de cela, tout ça est en mouvement. Donc ces résonateurs changent de forme en plus. Donc imaginez une guitare comme si la caisse de résonance de la guitare en un quart de seconde changeait de forme.
Vous avez fait allusion tout à l'heure aux questions familiales, parce que c'est vrai que parfois on entend des gens qui disent là exactement la même voix que sa mère, il a la même voix que son père. C'est normal, c'est parce que on reproduit ce qu'on entend.
C'est beaucoup le bain linguistique. Il y a des études qui sont faites surtout sur les voix des jumeaux. Alors, il faut que ça soit deux jumeaux de même sexe, évidemment. On peut comparer que les voix d'hommes entre elles et les voix de femmes entre elles. Mais il y a très souvent les mères et les filles, on peut les confondre au téléphone. Parce qu'en plus, le téléphone gomme certaines fréquences de la voix. Et les jumeaux, moi j'ai fait une étude sur les jumeaux il y a très très longtemps, c'était passionnant.
Ils n'avaient pas tout à fait la même voix.
Très proche. Ils avaient entre autres la même fréquence fondamentale. Et ça, c'est inouï.
On repart au standard de France Inter, cette fois c'est Bernadette qui est en ligne. Bonsoir Bernadette.
Bonsoir.
Pouzouges.
Oui, en Vendée.
On vous écoute Bernadette.
Oui, alors elle a répondu en partie à ma question, c'était passionnant tout ce que j'ai entendu. Au niveau de comment travailler sa voix. Qu'est-ce que je voulais savoir, entre autres, les techniques vocales dont vous avez parlé.
Ah bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, même si c'est bien parti pour cette émission. Merci Bernadette. Comment fait-on pour travailler sa voix ? Alors là, on a trois spécialistes, je ne sais pas par lequel commencer. Il y a la voix parlée, il y a la voix chantée, ce sont deux choses différentes, oui, Philippe Jarouski.
On pourrait dire que peut-être le défaut qu'on peut tous avoir avec sa voix, c'est que ce soit la voix parlée ou la voix chantée, c'est d'être toujours un petit peu en dessous. Moi, on me dit souvent que d'ailleurs, quand je parle, je suis un petit peu comme ça, je marmonne, hein. Voilà, effectivement, on n'utilise peut-être pas assez l'ouverture, les résonateurs pour laisser la voix s'épanouir. En tout cas, on l'étouffe un peu inconsciemment. Et d'ailleurs, ça peut même avoir psychologiquement, c'est-à-dire quand on est timide, voilà. Et c'est là où c'est fascinant, c'est que la voix est aussi le reflet d'une personnalité, de l'âme, de la personne. Et c'est vrai que les personnalités plus toniques, plus extraverties, ont des voix souvent plus ouvertes naturellement. Donc c'est tout un travail, en fait, curieusement, le travail d'une voix parlée, on va sûrement en reparler, c'est aussi un travail psychologique sur soi.
Docteur Fresnel. Alors, dans votre académie de la voix, par exemple.
C'est pas une académie, c'est un laboratoire de la voix.
Laboratoire. Comment faites-vous, les gens qui viennent vous voir, ils viennent pour travailler leur voix ?
C'est assez varié. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont malheureux avec leur voix. Ils sont pas en adéquation avec leur voix. Ils aiment pas leur voix. Et donc là, mon but, c'est de les réconcilier avec leur voix. C'est pas de leur changer leur voix, c'est de les réconcilier. Alors là, on a un coach vocal, je crois qu'on peut vous appeler comme ça.
Pierre de Ric,
parfois coach.
On a un chanteur lyrique haut de gamme. Moi, je m'occupe aussi bien de voix parlée que de voix projetée, de comédien que de voix chantée. Mais la base est toujours la même. C'est-à-dire, il faut savoir respirer pour que cette fameuse pression sous les cordes. La posture, c'est très important. Si on ne se tient pas bien, on ne peut pas émettre une voix de bonne qualité. Il faut savoir utiliser, il faut avoir des cordes vocales en bon état, il faut savoir utiliser ses résonateurs. Et il y a aussi l'intention. Qu'est-ce qu'on veut faire avec sa voix ? Est-ce qu'on veut parler ? Est-ce qu'on veut convaincre ? Est-ce que c'est une expression artistique ? Est-ce qu'on est malheureux ? Donc il y a beaucoup de prise en charge. Mais L'idée de base, c'est toujours la même. Savoir respirer, se tenir droit, être vertical, savoir utiliser ses résonateurs.
Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « j'aime pas ma voix » ?
Je leur demande d'abord pourquoi. Et le problème de la voix parlée, parce que là on parle de voix parlée oui. essentiellement, c'est que les gens, ce que disait Philippe tout à l'heure, sous-utilisent leur voix la plupart du temps. Ils utilisent 20% et ils ont 80% d'inconnus qu'ils pourraient utiliser et améliorer. Ils ont souvent une très mauvaise auto-écoute de leur propre voix, un mauvais jugement. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « ma voix, elle est beaucoup trop aiguë ou elle est beaucoup trop grave et quand je fais des mesures, elle est médium, par exemple. » Alors que ce ne sont pas des gens qui entendent rien ou qui n'ont pas forcément l'oreille musicale. Mais ils ont une mauvaise appréciation de leur propre voix. Donc, il faut les amener par des choses qui sont scientifiques et qui sont objectives, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de subjectifs dans ce qu'on écoute d'une voix, à les amener à quelque chose pour qu'ils utilisent mieux leur voix et qu'ils en fassent un atout.
C'est vrai, Pierre-Dric, qu'on n'a pas l'habitude, on ne nous apprend pas à nous servir de notre voix.
Alors, on nous apprend très bien à tenir un stylo, les figures de style à l'écrit, etc. Par contre, l'outil corps, outil vocal, voilà, par excellence, on nous apprend absolument jamais à bien s'en servir, alors que c'est un enjeu immense. Et ce qu'il y a d'extrêmement beau dans cet enseignement-là, vous parliez de ces 20% de la voix qui est utilisée par le commun des mortels, c'est de faire accéder l'élève justement aux 80% restants. Et c'est ça qui est absolument, c'est très beau à voir comme potentiel qui va se réaliser. Et finalement, c'est un chemin vers la connaissance de soi, un chemin sur aussi son inscription dans l'espace social, quoi. Donc ça soulève beaucoup, beaucoup de choses.
Et c'est d'autant plus important que notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, veut réhabiliter l'oral pour les élèves. Va falloir les former, ça ne va pas se faire tout seul.
Ça ne va pas se faire tout seul, en effet. Donc on travaille beaucoup. et là, y a Eloquentia, qui est une grosse association qui est en train de former pas mal de personnes pour aller dans les lycées, pour former justement les gens à cette discipline-là. Et c'est vrai que c'est un changement de civilisation quand même. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui va finalement ouvrir cette culture un peu élitiste de la prise de parole en public au tout à chacun. Quoi.
Est-ce que c'est une caractéristique française de ne pas penser à s'occuper de la voix, docteur Fresnel ?
Voilà, il faut oser. Ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens... Ils sont un peu comme ça, renfermés, avec les épaules enroulées vers l'avant. Ils n'osent pas trop parler, trop ouvrir la bouche. Moi, je vous parle juste d'une expérience personnelle qui n'a pas du tout mon activité professionnelle. Mais mon fils est né aux États-Unis. Il va avoir 36 ans, donc ce n'était pas hier. Et il est allé à l'école aux États-Unis. Il avait 2 ans et demi. Alors déjà, c'est la première différence, c'est qu'un enfant peut aller à l'école très tôt aux États-Unis à condition d'être autonome. Et à l'école, donc j'en ai un enfant, d'abord il y avait la levée de drapeau avec le chant américain, avec la main sur la poitrine, mais on leur apprenait à parler. Et on leur apprenait à parler devant les autres, et de ne pas être anxieux, de ne pas être timide, de ne pas avoir peur, et qu'il n'y avait pas de différence entre les élèves. C'était aussi vrai d'ailleurs pour les différences corporelles, parce que... Il y a des Américains qui sont quand même assez, ou qui étaient, je ne sais pas, peut-être ils ont progressé depuis, un peu volumineux. Mais du coup, personne se moquait de personne. Et c'est beaucoup pour ça, je pense qu'en France, on est plutôt dans une chose de retenue, parce qu'on n'ose pas sortir sa voix. Je ne vais pas vous faire une démonstration dans le micro, parce qu'on n'ose pas projeter sa voix.
Oui.
Philippe Jaroussky.
La voix a une force de conviction, elle peut bousculer... énormément de choses, on voit bien, mais je pensais tout à coup à un enfant. Moi, je trouve que les enfants utilisent parfois la voix de façon beaucoup plus instinctive. On peut même dire que d'ailleurs, c'est peut-être même les adultes qui, au fur et à mesure, étouffent la voix des enfants en leur disant arrête, tu hurles, tu parles trop fort. On est dans une société qui murmure, qui n'ose pas dire les choses, et où même le fait de dire bonjour est à peine susurré et n'est pas assumé de façon directe. Et c'est vrai que m'est arrivé des fois de m'amuser à faire ça, de dire bonjour de façon extrêmement sûre, et on voit les gens sont surpris parce que l'impact de ce bonjour est exponentiel par rapport à celui dont on a l'habitude d'entendre dans nos sociétés modernes.
On a socialement du boulot à faire en France, si je vous entends bien. Chantal nous appelle à son tour. Bonsoir Chantal.
Oui, bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Eh bien écoutez, tout ce que je viens d'entendre me réconcilie avec ma voix. Figurez-vous que je suis professeure d'éducation physique.
Qui est très belle. Très belle voix. Très belle voix.
Félicitations en direct de Philippe Jarouski. Moi, je serais vous, je prendrais. Hein.
Ah bah c'est gentil, c'est très gentil, c'est flatteur. Alors, je suis professeure d'éducation physique et j'ai des collègues qui, au bout d'un moment, me disent « Mais Chantal, on t'entend du bout du stade. » Ça veut dire que bah, j'ai une voix qui est très forte, qui est très puissante. Et je la contrôle quand il le faut, bon, je parle plus bas. Quand je suis en escalade à l'intérieur, donc je parle beaucoup plus bas. Mais dès qu'il faut mettre du son, ben, j'ai le son qui part, qui part. Et je n'aime pas m'entendre non plus. Quand je m'enregistre, je n'aime pas m'écouter. Ça, c'est horrible. Mais j'ai une voix qui est hyper puissante. Donc, de ce côté-là, je suis contente. Juste ce que vous venez de dire, ça me réconcilie fortement.
Voilà, arrêtez de culpabiliser. Ce soir, personne ne va vous jeter la pierre, Chantal. En revanche, docteur Fresnel, elle n'aime pas s'entendre.
Alors, d'abord, elle sait projeter sa voix. Parce que c'est ça, parler fort, c'est pas hurler, c'est pas crier. C'est mettre la pression qu'il faut d'air sous les cordes vocales pour avoir cette projection. Et les professeurs d'éducation physique et sportive en ont parfaitement besoin, et elle s'abîme pas la voix, donc elle sait le faire. Alors elle aime pas sa voix, ça c'est très fréquent. Beaucoup de gens d'abord ne reconnaissent pas leur propre voix. C'est-à-dire que quand moi je parle, je suis la seule à entendre ma voix par conduction aérienne, ce qui arrive à mon oreille, mais par conduction osseuse, c'est-à-dire tout ce qui vibre. Donc si vous enregistrez votre voix et que vous n'avez pas l'habitude, vous n'allez avoir qu'une composante, c'est-à-dire la composante aérienne. Et vous allez perdre la composante osseuse et vous avoir l'impression que c'est la voix de quelqu'un d'autre. Alors il faut savoir apprendre, si on a l'habitude de s'enregistrer, si on dit du courrier par exemple, comme moi toute la journée, quand je réécoute le dictaphone, je sais que c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Il faut apprendre à apprécier sa propre voix. Il faut apprécier certaines choses. Parfois il y a des petits défauts qu'on peut cultiver, ça peut être un plus. Mais il faut se réconcilier avec sa voix, parce que sinon, on est très malheureux.
Pierre Deric, est-ce que vous enregistrez ce que vous faites travailler ou pas ?
Alors, oui, mais ce qu'il faut bien faire comprendre, en fait, c'est que la voix, c'est un petit peu une entité tierce. C'est-à-dire qu'on lui donne ce dont elle a besoin, et au moment où elle se libère, elle apparaît comme ça, elle ne nous appartient plus vraiment. C'est comme un enfant qu'on a élevé, on a donné à manger, etc. Et il va faire sa vie. Et il va falloir l'aimer, cet enfant, parce que c'est... Voilà. Et c'est vraiment, en effet, ce terme de se réconcilier. Et on l'accepte telle qu'elle est. Après, on peut lui faire faire des choses. Mais c'est ça, une voix libérée, c'est une voix qui s'est épanouie et qui est un petit peu indépendante. Et parfois, il y a cette espèce de phénomène acoustique, et je pense que ça doit vous arriver, où on a la sensation que la voix est un peu face à soi, quoi.
Moi, je suis dans une situation particulière, comme beaucoup de professionnels de la voix, c'est-à-dire les chanteurs. C'est qu'on a deux voix, nous, les chanteurs. On a cette voix quand on chante, et que ce n'est pas forcément que pour l'opéra, c'est peut-être encore plus évident pour l'opéra. La voix d'opéra est une voix transformée, travaillée, optimisée pour être projetée sans micro. C'est une voix que j'ai l'habitude d'écouter, parce que je dois faire les disques, enregistrer, etc. Choisir les prises. Donc c'est une voix qui, pour moi, est beaucoup moins intime que ma voix parlée. Et je n'aime pas m'entendre parler.
Ah bon ?
Parce que pour moi, c'est ma voix intime. Quand je chante, j'ai quelque chose de plus travaillé, on va dire. Mais ma voix la plus intime, ça reste ma voix parlée. Et c'est celle que j'ai le plus de mal à écouter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Thierry nous appelle de Craponne. Bonsoir Thierry.
Bonsoir madame. Dites-moi, l'homme semble avoir une voix plutôt grave, la femme plutôt aiguë. Je rentre de Milan où j'étais à la Scala et j'ai pu observer ça. Est-ce que vos experts peuvent me donner une explication ?
Eh bien, ils sont là, ils vont vous répondre.
Madame l'expert, d'abord.
Elisabeth Fresnel.
Alors, chez l'adulte, après la puberté, qu'est-ce qui va tout déterminer ? Sous l'imprégnation hormonale, la voix des garçons va descendre d'une octave en général et la voix des filles d'une tierce. Et il va y avoir donc chez la femme en général une voix beaucoup plus aiguë que chez l'homme. Chez l'homme, en moyenne, un homme adulte qui a une voix médium va avoir une fréquence aux alentours de 100 Hz. C'est-à-dire que ses cordes vocales vont vibrer, s'ouvrir et se fermer 100 fois par seconde. Chez la femme adulte qui a une voix médium, c'est deux fois plus, 200 Hz, c'est-à-dire 200 fois par seconde. Là-dedans intervient à mon avis, mais ça c'est un avis très personnel qui contredit un peu beaucoup de ce qu'il y a décrit dans les livres, c'est la longueur des cordes vocales. On dit partout que plus les cordes sont longues et plus la voix est grave, et que plus les cordes sont courtes et plus la voix est aiguë. Moi j'ai fait une étude, surtout sur les voix chantées professionnelles, où il n'y avait aucun doute sur la classification de la hauteur de la voix chantée, des ténors, des barytons, des basses, et la voix parlée. On a comparé les deux, et la longueur des cordes vocales, ça c'est purement à l'œil, quand on fait des endoscopies laryngées, parce qu'on a relativement peu de moyens de mesurer la réelle longueur des cordes vocales. Mais quand on est entraîné, on sait si les cordes sont longues ou sont courtes. Comme il y a peu de basses dans cette étude, il nous manquait ces fameuses basses. Mais on a publié cette étude et il se trouve que, évidemment, c'est toujours comme ça. Une semaine après, j'ai vu deux basses profondes, des vraies basses, très profondes, avec des voix très graves parlées et qui avaient des cordes vocales très courtes. Donc la longueur des cordes, j'y crois à moitié. Il y a surtout la configuration des résonateurs, il y a un peu la corpulence, enfin, c'est un peu fini maintenant le petit gros ténor et le très long longiligne.
Oui, les exceptions, oui.
Il y a plein d'exceptions à la règle, mais c'est une question essentiellement hormonale.
Quel est le rapport entre la voix parlée et la voix chantée ? Est-ce qu'on a forcément une certaine tessiture en chantant quand on a une voix qui est comme ça ou pas ?
Mais non, ce qui est intéressant, c'est quelle est la différence de mécanisme finalement entre une voix parlée et un son chanté qui dure finalement plus longtemps en fait.
Comment ça s'articule tout ça ?
Je crois que vraiment ce qui différencie la voix parlée de la voix chantée, c'est la contrainte musicale de la voix chantée, quoi. Les hauteurs de notes qui sont imposées, les phonèmes qui sont imposés et les tenues de notes qui sont imposées aussi. Et c'est vraiment ça qui est compliqué. Mais c'est aussi très compliqué en tant qu'orateur de ne pas avoir de partition préalablement écrite. Et donc d'avoir à placer ses prises d'air un peu, à l'instinct finalement. Et c'est ça qui crée souvent les accidents vocaux et les burn-out vocales, comme notre président peut l'avoir.
Alors justement, vous faites bien d'en parler, parce qu'on l'a l'accident vocal. Là. On va l'écouter, Emmanuel Macron.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.
On ne s'en lasse pas, hein. Ça c'était pendant la campagne électorale, avant qu'il ne soit coaché par le baryton Philippe Lafond. Il y avait du boulot, mais visiblement, ça a plutôt marché, ces cours.
Oui. Je crois que là vraiment, mais c'est un symptôme que moi je retrouve absolument chez tous mes élèves. C'est-à-dire que dès qu'il y a un fort investissement énergétique, il y a un blocage, il y a une tension au niveau du larynx. Et donc on crie, et donc on se casse la voix. Et en fait, c'est ça qui est merveilleux avec la voix, c'est que quand on veut avoir une grande intensité vocale, il faut au contraire travailler dans la détente. Ce qui est complètement contraire à notre habitude de faire. Nous, quand on agit sur les choses et sur le monde, c'est dans la contraction musculaire comme ça. Et la voix, c'est l'inverse.
Philippe Jarowski.
Oui, alors c'est vrai que la détente est importante, mais si vous êtes trop détendu, en tout cas quand vous êtes un chanteur lyrique, vous pouvez pas non plus effectuer la prouesse vocale que vous devez effectuer. Je vais trop détendu, je passe plus rien. Donc en fait, ce qui est très compliqué justement dans l'art du chant, c'est de garder cette tonicité qui fait que le son va s'épanouir dans un corps qui est solide, parce qu'en fait, il faut être solide pour émettre un son puissant. Et en même temps, cette détente dont vous parlez, qui fait que le son passe à travers tout le corps et tous les résonateurs, et qui fait le timbre unique de chaque violon, comme de chaque personne. Et c'est vrai que c'est un très long apprentissage. Il y a aussi quelque chose qui, je pense, est assez commun au travail à long terme d'une voix parlée chez un acteur ou chez un intervenant ou chez un chanteur, c'est l'anticipation. Souvent, on pense au dernier moment ce qu'on dit et la voix en paye les pots cassés en fait. Et quand on se met à prendre du recul et de prendre le temps d'anticiper ce qu'on a vraiment envie de dire, là c'est ce que je suis en train de faire. La voix tout de suite s'améliore. Il y a une qualité de voix parce que votre pensée est claire. Et c'est la même chose pour un chanteur ou pour un intervenant, je crois. Quand on est un peu brouillon dans sa tête, la voix en paye les pots cassés.
Alors, on va retourner au standard dans un instant, mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse à propos du chant. Pourquoi le chant, c'est bon pour la santé, Dr Fresnel ? On nous dit que ça fait travailler beaucoup de muscles.
Alors,
en tout cas.
Un chanteur lyrique, en général, utilise à peu près 200 muscles de son corps humain pour chanter. Il faut respirer. Respirer, c'est la vie. C'est j'ai oublié maintenant le nom de ce sage indien qui avait dit ça il y a très très longtemps. Il faut arriver à synchroniser, comme dit Philippe, beaucoup de choses en même temps. Il y a le cerveau, il y a l'oreille, il y a tous ces muscles, il y a l'ouverture, il y a la posture. Il faut arriver à faire ça d'une façon la plus naturelle possible. C'est-à-dire, si vous devez réfléchir 3 heures avant d'ouvrir la bouche à comment je respire ou comment je me tiens, ça ne va jamais aller. Donc, moi, je dis toujours aux gens que d'apprendre à chanter, il y a beaucoup de gens qui chantent pour leur plaisir, dans des chorales, dans des associations, c'est mieux, et ça n'engage que moi, qu'une heure de sport dans une salle.
Et on peut faire ça à tout âge ?
Tout âge. La voix, ça vieillit très tard. Très, très tard, à condition de savoir l'utiliser, de savoir respirer et de l'utiliser.
Philippe Jarouski, on pourra venir vous voir. Votre académie va falloir l'ouvrir à tous les âges. Hein.
Oui, oui, moi je dis souvent que le chant est le seul sport que je fais. Je suis asportif et je me dis que si j'avais pas la voix, je serais en moins bonne santé. Parce que c'est vrai que quand je chante un opéra de 2-3 heures, le flux justement d'air que je dépense, tout ça, est quelque chose qui me maintient dans un niveau énergétique qui est assez élevé en fait. La voix est aussi peut servir de réveil. En fait, les gens souvent disent qu'ils reçoivent, quand ils commencent à chanter, ils ont des sensations incroyables qui leur remontent. Il y en a même qui se mettent à pleurer. Ça peut être aussi une façon très curative et aussi de garder cette. On dit souvent, on chante quand on est heureux dans la vie de tous les jours.
De toute façon, il y a un engouement pour le chant quand même. On le voit, par exemple, à la télévision. Hein, c'est devenu quelque chose de très populaire.
Oui, tout à fait.
Pierre Deric.
Avec The Voice, etc. Et après, par contre, moi, je trouve ce qui manque, c'est en effet cette culture de la chorale, quoi. Je trouve qu'il y a, par rapport aux États-Unis, où là, il y a une culture du chant harmonisé qui est extrêmement importante. En France, en tout cas dans la culture populaire, moi je suis aussi prof de chant en musique actuelle, on est vraiment très sur l'individu et sur le soliste. Alors que
on veut nous remettre ce premier juré craché, une chorale dans chaque établissement scolaire. Hein. Non, mais ça a été
moi
dit.
J'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de chorales de gospel, notamment.
Je suis issu de ce monde-là, donc oui, en effet, oui. Oui, c'est vrai que c'est... Moi, c'est une musique qui soulève tellement de passion. En même temps, une musique qui est très accessible et une musique qui rassemble les gens, quoi, autour d'un message d'espérance. Donc,
un message d'espérance et d'amour. Et quand on se fait du bien, quand on chante, on est heureux. Et quand on est heureux, on libère des endorphines et ça nous fait du bien. Donc, chanter.
Voilà, chanter plutôt que de prendre des psychotropes. Marie-Vonne est en ligne. Elle est au standard à son tour. Bonsoir, Marie-Vonne.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je voudrais porter un témoignage. Lorsque j'avais 18 ans, 19 ans, je ne sais plus exactement, j'étais à l'école normale d'institutrice et je faisais beaucoup de musique, j'avais une voix de soprano et le professeur m'avait conseillé de préparer un concours pour rentrer dans une école privée. Donc j'ai préparé le concours, j'avais un morceau un chant de Mozart à préparer, tout allait bien. Jusqu'au jour où quand j'ai rempli le dossier et que j'ai vu le prix de l'école, j'ai réalisé que mes parents ne pourraient pas payer ce prix. Et du jour au lendemain, ma voix s'est cassée. J'avais une extinction de voix et bien entendu, je ne pouvais pas dire que... D'ailleurs, est-ce que j'étais consciente que c'était à cause de ça, du fait que le prix était élevé? Je ne sais pas. J'en ai pris conscience, je pense, longtemps après. Mais... je n'ai pas pu préparer ce concours. Tout d'un coup, ma voix était... voyez, rien que d'en parler, ma voix à nouveau devient un peu cassée parce que ça a été un vrai traumatisme pour moi.
Merci Marie-Vonne. On va peut-être poser la question à Dr Fresnel sur votre cas.
Alors évidemment, la voix est très sensible aux émotions. Il y a un côté très psychologique parfois. Et le fait d'avoir un traumatisme, je pense que madame a eu un vrai traumatisme quand elle s'est rendue compte qu'en fait elle pourrait pas faire cette école de chant, on peut en perdre la voix. Moi je vois des jeunes chanteuses et chanteurs qui vont passer les concours du conservatoire, ils ont une voix qui est parfaitement normale 3 jours avant et ils sont à faune le jour du concours. Ça c'est un grand, grand classique. C'est pour ça que parfois, et même souvent, il faut aussi, dans les problèmes de voix, avoir une prise en charge d'ordre psychologique.
Alors, il y a des problèmes psychologiques, il y a aussi de graves problèmes médicaux. Yolande est en ligne du Havre et veut nous poser une question à ce sujet. Bonsoir Yolande.
Bonsoir et merci pour toutes vos émissions. J'ai eu une sonde nasogastrique il y a un peu plus d'un an pour un problème médical urgent. Et depuis, ma voix est enraillée et je ne l'ai jamais récupérée. Et tous les gens me demandent quotidiennement si je suis malade, si c'est les allergies, si... Et alors, je me demandais si je pouvais récupérer ma voix de façon mécanique ou alors s'il fallait passer par la chirurgie.
Eh bien, on va poser la question, Yolande, on va poser la question à Elisabeth Fresnel, qui est médecin.
Alors d'abord, il faut avoir un diagnostic, c'est-à-dire savoir pourquoi votre voix s'est modifiée après la pose de cette sonde nasogastrique. Normalement, quand on passe une sonde nasogastrique, on va dans l'ésophage, c'est-à-dire qu'on ne va jamais au niveau des cartilages aryténoïdes sur lesquels les cordes vocales sont attachées à leur partie postérieure, et évidemment jamais dans le larynx. Il peut y avoir, si on garde cette sonde un certain temps, parfois quelque chose d'un peu traumatique, mais là, il faut avoir un examen soit ORL, soit phoniatrique, pour voir comment les cordes vocales fonctionnent, leur mécanique, comment elles s'ouvrent, comment elles se ferment, comment elles s'accolent. Et une fois qu'on a un diagnostic, on peut proposer une prise en charge.
Beaucoup de questions sur franceinter.fr aussi, sur le fait de parler dans une langue étrangère. On a l'impression que la voix n'est pas la même. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vrai? Qui veut répondre à ça?
C'est une réalité parce que chaque langue a sa gamme de fréquences. La langue anglo-saxonne, par exemple, est sur des fréquences plus aiguës que le français. Curieusement, l'italien et le mandarin sont assez proches. Alors, je suis pas linguiste, peut-être que mon collègue aurait d'autres idées là-dessus, mais c'est vrai.
On repart une dernière fois au standard avec Françoise, qui est enseignante. Bonsoir, Françoise.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors donc moi je suis enseignante depuis bientôt 30 ans et j'ai une formation de chant lyrique que j'ai faite au conservatoire à Brest il y a longtemps maintenant, mais je n'ai jamais arrêté de chanter et j'aime beaucoup faire chanter mes élèves. Et je me rends compte quand même que j'ai des élèves de CM1. Je me rends compte que c'est difficile de faire sortir la voix des enfants. Certains sont très à l'aise, mais d'autres sont très inhibés. Et là, il faut trouver des subterfuges pour réussir à leur faire sortir la voix. Il y a le théâtre, le chant, mais même le chant. Hein. C'est compliqué parce que c'est vraiment un don de soi et ça, ils ont beaucoup de mal avec ça. Et par ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup d'enfants, enfin j'ai l'impression de plus en plus, ont des voix cassées, des voix abîmées, des voix anodules. Et je me demandais pourquoi. Voilà.
Eh ben, c'est une excellente question, Françoise. Merci de l'avoir posée sur les voix cassées, docteur Fresnel.
Alors, moi, je vois des enfants parce que ce sont des enfants qui ont un cursus dans les conservatoires de musique instrumentale, mais la chorale est obligatoire. Alors, il y a des enfants qui n'aiment pas chanter. Ça peut arriver. Moi, je leur demande déjà toujours, quand je les vois avec leurs parents, et parfois les parents sont étonnés des réponses qu'ils me font, je leur dis, mais est-ce que tu aimes chanter ? Il y en a qui me disent non. Et je leur dis, mais t'aimes pas chanter comme on n'aime pas les épinards, ou t'aimes pas chanter parce que c'est difficile pour toi de chanter, ou c'est difficile de chanter devant les autres, parce que c'est une chorale, c'est en groupe. Et donc là, il y a tout un travail de compréhension à faire, et à amener aussi les parents à faire, ce qui n'est pas toujours très facile. Et les enseignants à faire, ce qui est non moins facile. Et puis, sur les voix cassées des enfants, le problème des enfants, c'est qu'ils crient beaucoup. Alors, ils crient beaucoup s'ils sont des fratries. Et souvent, c'est l'enfant du milieu, parce qu'il a un frère aîné et un frère plus petit, ou une sœur. Et il faut qu'il s'affirme, puisqu'il est au milieu, il est pris en sandwich entre l'aîné et le plus jeune. Et donc, il va crier. Et je ne sais pas si vous passez de temps en temps dans la rue, au moment où il y a la récréation, et vous avez la nuée d'enfants qui sortent, le nombre de décibels, c'est effrayant. Et les enfants parlent très fort. Moi, j'ai une petite fille, et j'ai des petits voisins qui sont des petits jumeaux, et quand ils se rendent compte, la mère des jumeaux et moi, on leur dit « mais on n'est pas sourds, mais parlez normalement, arrêtez de hurler ». Et il faut apprendre aux enfants à pas crier et à pas parler aussi fort.
Oui, et je pense que pour les enfants, il faut leur apprendre à prendre la parole différemment. Je crois que c'est une surenchère en fait. C'est aussi un appel au secours. Les enfants ont envie de se faire entendre et ils crient de plus en plus fort. Je trouve aussi que moi, je me rappelle mes premières sensations quand j'ai commencé à chanter. Donc du coup, à l'âge adulte, J'avais l'impression d'avoir enlevé, surtout en public, d'avoir enlevé tous mes vêtements, en fait, de me présenter tout nu aux gens. Et c'est en cela, effectivement, que l'étude du chant pour les enfants peut être assez libérateur dans l'affirmation de soi-même en tant que futur adulte, de dire non, voilà, je chante, c'est moi qui chante, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc le chant peut aussi être une façon de poser une sorte d'affirmation de soi-même et d'éviter de gommer tous ces fausses pudeurs en fait qui peuvent nous pourrir la vie en fait tout simplement parce que on s'affirme plus en tant que personne.
Et ça c'est votre travail, Pierre de Ric.
Tout à fait, oui, tout à fait. Alors moi j'ai assez peu d'expérience avec les enfants. J'en ai eu une première là cette année et je me suis quand même retrouvé face à la complexité de la croissance très rapide. L'instrument se modifie d'une semaine à l'autre, quoi. Donc c'est assez fou à observer.
Et est-ce que vous voyez, parce que vous vous adressez à des publics très différents, des différences d'approche par rapport à la voix selon les
couches sociales,
ouais, exactement.
Bah, on m'interroge beaucoup là-dessus. Pas vraiment. Si vous voulez, tout dépend des contextes. À Sciences Po, il y a l'inhibition peut-être due à l'institution où chacun veut quand même déjà montrer le fait qu'il est professionnel et qui correspond.
Il est un futur premier de cordée, quoi.
Voilà, hein, tout voilà, à fait. À Eloquentia, il y a une parole qui est vraiment de prime abord beaucoup plus libéré parce qu'on accueille tous les styles différents, qu'ils soient du slam, du hip-hop et autres. Donc voilà, tout dépend du contexte. Après, les problèmes individuels, bah, écoutez, ils sont individuels. Et qu'on soit riche ou pauvre, parfois, on a des tensions laryngées. Voilà.
Merci beaucoup. Une toute dernière question à Philippe Jarouski, mais vraiment, on a 20 secondes. Combien d'heures de travail, de chant par jour ?
C'est une question qui revient souvent. Ça dépend. En fait, les jours où j'ai des concerts ou une représentation d'opéra, mon travail n'est de pas chanter avant le spectacle.
Et même
évidemment.
De pas parler, je crois. Hein, parfois.
Exactement. Parfois, une petite cure de 20 heures sans parler vous redonne la voix que vous avez besoin pour le soir.
Merci beaucoup, Philippe Jarouski, pour ces 2 heures passées avec nous. Le concert du Théâtre des Champs-Élysées, il est sur France Musique dans quelques jours,
oui,
je crois.
Oui, le 10 juin.
Le 10 juin. J'en profite aussi pour signaler un numéro spécial de la revue Ça m'intéresse, on nous l'a signalé aujourd'hui, consacré à la voix, revue qui est en kiosque. Merci Elisabeth Fresnel, merci Pierre de Ric, merci Philippe Jarouski, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce téléphone sonne. Ils se reconnaîtront.